Il faut vraiment se représenter la scène, en fait. La construction d'un gratte-ciel de 55 étages. Un bâtiment conçu pour résister aux pires séismes et dont la logistique est pensée pour s'intégrer directement aux flux mondiaux de l'intelligence artificielle.
C'est l'avant-garde absolue, oui.
C'est clair. Et en même temps, bah, juste en bas, au niveau de la rue, les tribunaux locaux traitent plus de 12 000 dossiers pénaux.
Oui, 12 000.
12 000 dossiers pour des questions de mœurs privées dictées par des lois complètement traditionnelles.
C'est le grand écart.
Exactement. Et aujourd'hui, on se plonge dans l'édition d'avril 2026 du magazine iWeek, le numéro 125 précisément. Et cette source nous dépeint une nation, le Maroc en l'occurrence, qui semble vraiment frappée d'un véritable coup du lapin temporel.
C'est une bonne expression.
D'accord. Décortiquons tout cela. Parce que nous avons sous les yeux un pays où la course frénétique vers le futur percute, mais alors de plein fouet, l'inertie du passé.
Et c'est un tableau qui est vraiment saisissant. Mais pour bien aborder cette exploration des sources, il faut tout de suite écarter une idée.
Laquelle ?
L'idée de lire toutes ces informations comme un simple bulletin économique ou politique classique.
D'accord.
Parce que la vraie matière ici, le cœur du sujet, ce n'est pas le chiffre isolé de la croissance.
Ou le nombre de mètres d'une tour, quoi.
C'est quoi alors ?
C'est la friction. C'est vraiment ce qui se passe quand les ambitions macroéconomiques d'un gouvernement se heurtent à la réalité du portefeuille d'un retraité, par exemple.
Ah ouais, je vois. Quand la volonté de créer une nouvelle classe politique s'écrase contre les vieux réseaux de pouvoir locaux. C'est vraiment dans ces zones de collision que se révèle la mécanique de transition de toute une société.
Et justement, pour comprendre comment ces immenses plaques tectoniques bougent au niveau national, il me semble qu'il faut d'abord regarder là où l'impact se fait sentir en premier.
Au niveau microscopique.
Voilà. Dans le salon des gens. À l'échelle du foyer familial.
Tout à fait.
Parce que les sources s'appuient sur une enquête colossale du Haut Commissariat au Plan. Ça couvre la période de 1995 à 2025.
30 ans de données, oui.
C'est énorme. Et les données décrivent une véritable implosion du modèle traditionnel. Aujourd'hui, la famille qu'on appelle nucléaire, dont juste les parents et les enfants, elle écrase tout.
Elle représente 73% des ménages.
73%, alors qu'il y a 30 ans, on était à peine à 60%. Et en parallèle, le modèle de la famille élargie, la grande tribu sous le même toit, s'effondre littéralement.
Ouais. On passe de 35% à moins de 20%.
Mais comment on explique une rétraction aussi brutale en une seule génération ?
Eh bien, il faut regarder les mécanismes économiques et géographiques aussi qui soutenaient cette famille élargie.
C'est-à-dire ?
Historiquement, la tribu, l'oncle, les cousins, ce n'était pas juste une structure affective. C'était le filet de sécurité sociale par défaut.
Ah, la banque familiale, en quelque sorte.
Exactement. C'était la banque qui prêtait à taux zéro en cas de coup dur. C'était la crèche gratuite pour garder les enfants. C'était l'assurance chômage quand quelqu'un perdait son travail.
D'accord, je comprends.
Or, l'urbanisation a complètement cassé cette géographie. Aujourd'hui, l'enquête montre que moins d'un chef de ménage sur deux vit dans la même ville que ses parents.
Ce qui change tout.
Bah oui. Quand vous migrez vers Casablanca ou Tanger pour trouver du travail et que vous vous installez dans un appartement de 60 mètres carrés...
On ne peut physiquement plus héberger la famille élargie, c'est sûr.
Voilà. Le réseau de solidarité existe toujours, en théorie, sur le papier, mais sur le plan purement opérationnel, il est désactivé par la distance et par le coût de l'immobilier urbain.
C'est hyper intéressant. C'est un peu comme un arbre qui, face à un sol devenu trop sec, décide d'assécher ses longues branches. Et il ramène toute la sève vers le tronc central, juste pour survivre, quoi.
C'est une très belle analogie, oui.
Mais il y a un autre chiffre dans cette étude. Et franchement, il m'a fait bondir. Et c'est la conséquence directe de cette pression financière dont vous parlez.
Vous parlez du rapport au mariage, je suppose.
Absolument. Seuls 53,6% des femmes y sont aujourd'hui favorables.
Et chez les hommes, c'est encore plus drastique.
C'est la chute libre. À peine 31,5% des hommes interrogés se disent favorables à l'institution du mariage. C'est un rejet massif, en fait.
C'est clair. Mais c'est un changement de paradigme fondamental. Il faut bien comprendre que si la famille élargie ne peut plus absorber les chocs économiques, fonder un nouveau noyau familial, ça devient un risque financier énorme.
Ouais. On n'a plus de filet de sécurité.
C'est ça. D'ailleurs, l'âge moyen du premier mariage recule fortement. On est à plus de 26 ans pour les femmes et plus de 33 ans pour les hommes.
33 ans ?
Ce que ce chiffre de 31,5% chez les hommes traduit, ce n'est pas forcément une perte de valeur ou un désintérêt. C'est surtout un calcul de faisabilité.
Une angoisse financière, en gros.
Exactement. La pression de pouvoir aux besoins exclusifs d'un foyer nucléaire, avec un coût de la vie urbaine qui explose en parallèle, ça transforme le mariage. Ça passe d'une étape de vie naturelle à une montagne financière perçue comme infranchissable.
Ce qui explique d'ailleurs l'installation durable de la monoparentalité, non ?
Oui, qui frôle désormais les 9%, ce qui est inédit.
Et ça soulève une vraie question de société pour quiconque nous écoute aujourd'hui.
Laquelle ?
Quand la famille élargie disparaît en tant qu'amortisseur de crise, et que fonder sa propre famille devient un luxe trop coûteux, vers qui l'individu se tourne-t-il quand les choses tournent mal ?
Vers l'État.
Voilà. Historiquement, quand la tribu recule, c'est l'État qui doit avancer. Et ça nous mène directement à la réponse du gouvernement actuel, détaillée dans les sources.
Oui, le bilan de mi-mandat.
Exactement. Le chef du gouvernement, Aziz Aghanouch, présente ce bilan pour 2021-2026 en martelant que le pays vit une, et je cite, « décennie sociale ».
Avec des chiffres assez impressionnants sur le papier.
Très lourd même. On parle de 850 000 emplois créés, 847 textes de loi adoptés et 52 milliards de dirhams d'aides sociales distribuées.
L'argument de l'exécutif ici, c'est vraiment de prouver qu'il a pris le relais de cette solidarité familiale défaillante dont on parlait.
Ouais.
Et la preuve la plus spectaculaire dans le rapport, c'est le traitement de la fonction publique.
Ah oui, les salaires.
Le gouvernement a validé une hausse historique de 1000 dirhams nets par mois pour les fonctionnaires.
Ce qui n'est pas rien.
Non, c'est massif.
Avec les diverses revalorisations sectorielles, le salaire moyen net dans le secteur public a bondi de 29% en quelques années.
C'est énorme.
Il est passé à 10 600 dirhams. Mais c'est un effort budgétaire titanesque pour l'État.
Je crois que la facture globale va atteindre les 48,3 milliards de dirhams d'ici la fin 2026, c'est ça ?
C'est exactement ça.
Alors, attendez. Je veux bien que ce soit un effort massif. 48 milliards, c'est faramineux. Mais soyons pragmatiques deux secondes, si vous le voulez bien.
Je vous en prie.
Pendant que le gouvernement arrose la fonction publique, nos sources relatent une grogne, que dis-je, une colère noire des retraités à l'approche du dialogue social d'avril.
Oui, la situation des retraités est très tendue. Leurs associations affirment que les pensions n'ont pas bougé depuis 1997.
Depuis 1997.
C'est un fait, oui. C'est invraisemblable. On parle de près de 30 ans sans la moindre revalorisation. Pendant que l'inflation mondiale a fait exploser le prix du blé, de l'essence, des médicaments.
Et ils réclament une augmentation ?
De 2000 dirhams immédiates, oui. Juste pour survivre, en fait. Du coup, n'est-ce pas la preuve que cette fameuse décennie sociale, ça consiste simplement à acheter la paix sociale auprès des actifs au détriment des plus vulnérables ?
C'est la critique centrale qui émerge de cette situation, effectivement. Et c'est une critique très forte. Mais pour comprendre pourquoi l'État agit ainsi, au-delà de la politique politicienne, il faut se pencher sur la mécanique d'un trilemme économique.
Un trilemme ? Donc un dilemme à trois choix ?
C'est ça. Un gouvernement, en période de crise, doit gérer trois impératifs qui s'excluent mutuellement. Stimuler la croissance, maintenir l'État-providence et protéger le pouvoir d'achat face à l'inflation.
Et on ne peut pas faire les trois en même temps.
C'est mathématiquement impossible, sans exploser la dette. Donc financer la fonction publique, c'est un choix budgétaire direct. Le gouvernement décide de puiser dans les impôts pour soutenir la consommation de la classe moyenne active.
Parce que c'est elle qui fait tourner l'économie au quotidien, qui va au supermarché, qui achète des voitures.
Exactement. Les retraites, en revanche, elles obéissent à une logique actuarielle.
Alors, juste pour clarifier ce terme, pour ceux qui nous écoutent, la logique actuarielle, c'est le calcul des risques et des probabilités financières, n'est-ce pas ?
Oui.
Concrètement, c'est la différence entre ce qui rentre dans les caisses via les cotisations des travailleurs et ce qui en sort en fonction de l'espérance de vie des retraités.
Précisément. Une pension, en règle générale, n'est pas financée directement par l'impôt général de l'État. Elle est financée par les caisses de retraite. Et ces caisses sont alimentées par les actifs actuels.
La solidarité intergénérationnelle.
Voilà. Or, la démographie change. L'espérance de vie augmente, on vit plus vieux. Et donc, le ratio entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités se dégrade fortement.
D'accord.
Augmenter toutes les pensions de 2000 dirhams du jour au lendemain, d'un point de vue purement actuariel, ça précipiterait l'effondrement pur et simple de ces caisses de retraite.
La faillite du système, en gros.
C'est ça. Le gouvernement se retrouve donc coincé entre une légitimité morale absolue, parce que les retraités ne peuvent effectivement plus se nourrir correctement avec l'inflation, et une impossibilité mathématique systémique.
Et cette équation mathématique impossible, on voit dans les sources qu'elle se transforme très vite en méfiance politique.
Très vite, oui.
Forcément, quand un citoyen voit l'État injecter 48 milliards d'un côté pour les fonctionnaires et geler les retraites de l'autre depuis 30 ans, la défiance envers les institutions, elle grimpe en flèche.
C'est inévitable.
Ce qui explique parfaitement, je trouve, la stratégie de survie du système politique qui est abordée dans le magazine.
Le renouvellement de la classe politique.
Oui, Face à ce désenchantement total, il y a une tentative presque désespérée d'injecter du sang neuf, de renouveler les visages. Et la cible, c'est la jeunesse.
Avec une mesure assez inédite.
Le gouvernement a pondu un décret pour débloquer ce qu'ils appellent le « verrou de l'argent » pour les prochaines élections législatives.
C'est une initiative politique qui est très rare, il faut le souligner.
Comment ça marche, concrètement ?
Le décret prévoit un soutien financier public direct pour les candidats de 35 ans ou moins.
D'accord.
Et ce qui est vraiment remarquable ici, c'est que ce financement n'est pas réservé aux jeunes poulains des grands partis politiques traditionnels.
Ah, donc les indépendants aussi ?
Oui, les candidats indépendants, s'ils montent une liste composée de jeunes, ils y ont droit aussi. L'objectif avoué par le gouvernement, c'est de contourner la barrière du coût d'entrée en politique.
Ouais, parce que l'argent, c'est littéralement le nerf de la guerre. Imprimer des milliers de tracts, louer des salles pour les meetings, payer les déplacements.
Gérer toute la communication digitale, les réseaux sociaux.
Tout ça coûte une fortune. Donc un jeune de 30 ans, même s'il a les meilleures idées du monde, il part avec un handicap logistique insurmontable face à une vieille machine électorale bien huilée.
C'est le constat de base, oui.
Mais là, désolé, je dois faire l'avocat du diable.
Allez-y.
Est-ce qu'on est vraiment en train de dire qu'un chèque de l'État, ça suffit à gagner une élection ? Les élections locales, surtout au Maroc, selon les dynamiques décrites par Aybek, ça ne se gagnait pas juste avec de belles affiches et des posts Instagram.
Non, bien sûr que non.
Il y a le poids écrasant des notables. Ces figures locales qui tissent leur toile et leur réseau d'influence depuis des décennies. Un chèque ne peut pas effacer ça, si.
Et vous touchez du doigt la limite exacte de cette réforme. Le financement public, en fait, ça égalise la ligne de départ, mais ça n'égalise pas du tout la course elle-même.
Ah, belle nuance.
La mécanique électorale locale, elle repose encore massivement sur le clientélisme et sur les réseaux de patronage.
Comment ça se traduit sur le terrain ?
Prenez un notable local. C'est quelqu'un qui a passé 30 ans à rendre des services dans sa région. Il a aidé une famille à obtenir un permis de construire. Il a financé les maillots de l'équipe de football du quartier.
Il a été parrain de la fête de l'école.
Voilà, il a assisté à tous les mariages, à toutes les funérailles. Ce notable, il a accumulé un capital de dette morale et d'influence qu'absolument aucun chèque de l'État ne peut acheter.
C'est profond.
Le jeune candidat, même avec son financement public tout neuf, il arrive sur un terrain où les allégeances des électeurs sont déjà complètement verrouillées.
Donc, si je comprends bien la dynamique, donner de l'argent sans réformer la structure même du pouvoir local, ça risque surtout de créer une simple illusion d'ouverture.
Pire encore.
Pire encore.
Si la distribution de ces fonds publics manque de transparence, ou si ces jeunes candidats se font balayer aux élections malgré l'aide financière, l'effet boomerang sera terrible.
Ah oui, la désillusion.
La jeunesse, qui est déjà très méfiante comme on l'a vu, elle percevra cette mesure comme un simple habillage esthétique.
Du jeunisme de façade.
Et ça, une manœuvre destinée à légitimer le maintien des élites déjà en place, en disant « Regardez, on vous a aidé, c'est de votre faute si vous avez perdu ».
C'est très cynique.
En parallèle, on voit d'ailleurs que les vieux partis essayent eux aussi de s'adapter, mais structurellement.
Ah oui, le parti de l'Istiklal.
Voilà. Le magazine mentionne qu'ils soutiennent un investissement colossal de 210 milliards de dirhams sur 8 ans pour le développement territorial.
210 milliards de dirhams.
Et leur idée centrale pour gérer cet argent, c'est de remplacer les agences régionales étatiques classiques par ce qu'ils appellent des sociétés régionales.
Alors, attendez, juste pour qu'on suive bien. Quelle est la différence concrète sur le terrain ? Pourquoi passer d'une agence à une société ? C'est juste un changement de nom ?
Non, c'est fondamentalement une question de droit et d'agilité.
Expliquez-nous.
Publics qui sont extrêmement lourds, à des contrôles a priori qui ralentissent la moindre petite dépense.
C'est la lourdeur bureaucratique classique.
Exactement. En revanche, une société régionale, bien qu'elle soit à capitaux publics, elle fonctionne selon le droit des sociétés anonymes, comme une entreprise privée.
Ah, ouais. Le fameux droit privé.
Du coup, elle peut emprunter sur les marchés financiers, elle peut recruter des experts du secteur privé beaucoup plus facilement, et surtout, elle peut signer des contrats beaucoup plus rapidement.
Sans passer par 10 validations ministérielles.
Voilà. L'idée, c'est vraiment de contourner la lenteur viscérale de l'État en créant des structures hybrides plus rapides pour pouvoir exécuter ce budget gigantesque de 210 milliards.
On cherche l'agilité, la rapidité, le contournement des vieilles lourdeurs institutionnelles.
C'est le maître mot.
Et c'est là que notre fil conducteur devient incroyablement clair, cette volonté de forcer la modernisation, de créer des structures rapides. On la retrouve de manière presque caricaturale quand on observe la sphère économique et les infrastructures dans la suite du magazine.
Oui, le saut technologique.
D'un côté, iWeek met en lumière l'inauguration en grande pompe de la tour Mohamed VI par le prince héritier. Et là, attention, on n'est plus du tout dans la métaphore, on est dans l'ingénierie physique pure et dure.
C'est un projet monumental.
Une tour de 250 mètres de haut, 55 étages. Et pour qu'elles tiennent debout face aux vents violents et aux séismes, ils ont carrément installé un amortisseur harmonique.
C'est une technologie fascinante de l'ingénierie moderne, ça.
J'avoue que je ne connaissais pas le terme avant de lire la source. Comment ça marche ?
Eh bien, plutôt que de construire une tour complètement rigide, ce qui, paradoxalement, la ferait casser net lors d'un tremblement de terre, on installe un gigantesque contrepoids pendulaire tout au sommet du bâtiment.
Un énorme pendule, en gros.
C'est ça. Et quand le vent ou une secousse sismique pousse la tour vers la gauche, ce pendule colossal balance automatiquement vers la droite pour annuler le mouvement de balancier.
C'est fou.
C'est de la physique de très haut niveau, vraiment conçue pour s'adapter à un environnement fondamentalement instable.
Et cette volonté absolue de se hisser au sommet de la modernité mondiale, elle se reflète aussi dans les déclarations politiques sur l'économie.
Vous pensez à Omar Ejira ?
Oui, le secrétaire d'État au commerce extérieur. Il martèle dans l'article que la survie économique du pays passe obligatoirement par l'intégration de l'intelligence artificielle dans la logistique.
L'IA partout, oui.
On parle carrément de prédictibilité algorithmique, de traçabilité des conteneurs à la milliseconde près. On veut que l'économie marocaine soit branchée en direct sur le système nerveux numérique mondial.
C'est une belle ambition.
Sauf que, encore une fois, nos sources nous rappellent brutalement que toute cette belle technologie, elle flotte sur un océan de réalité physique et géopolitique impitoyable.
Tout à fait. Et l'exemple donné par le magazine est très parlant. L'optimisation par l'intelligence artificielle, ça fonctionne très bien, mais dans un monde parfait.
Or, nous ne sommes pas dans un monde parfait.
Loin de là. Illouïc rapporte aussi, dans ce même numéro, la réouverture extrêmement précaire du détroit d'Ormuz.
Le fameux goulot d'étranglement.
L'un des plus grands au monde pour le commerce maritime, oui. Et cette réouverture s'est faite sous l'étroite surveillance de l'Iran.
Oui, le contexte géopolitique est tendu.
Et surtout, elle est décrite par les analystes comme, je cite, « politiquement réversible à tout moment ».
Ce qui veut dire qu'ils peuvent tout refermer demain matin si ça leur chante.
Exactement. Et la leçon ici, elle est sévère pour les technocrates. Vous pouvez posséder le logiciel d'IA le plus sophistiqué du monde à Rabat pour optimiser vos flux commerciaux. Si un acteur géopolitique décide de bloquer militairement un détroit physique de 39 km de large au Moyen-Orient...
Vos algorithmes ne peuvent pas téléporter les navires.
C'est ça. L'économie hyper moderne, aussi numérisée soit-elle, elle reste l'otage de la géographie et des tensions militaires.
C'est implacable. Et si l'économie est l'otage de la géographie à l'international, je dirais qu'elle est aussi l'otage de la sociologie à l'intérieur de ses propres frontières.
La friction intérieure, on y revient.
C'est vraiment le contraste le plus saisissant de tout ce dossier, je trouve.
Le grand paradoxe ?
Bah oui, pendant qu'on inaugure cette tour de 55 étages ultra sécurisée et qu'on prêche pour une logistique gérée par l'IA de pointe, on découvre les chiffres d'une analyse menée par l'association MRA.
Des chiffres qui ramènent sur Terre.
Selon le ministère public, la justice a traité l'année dernière plus de 12 000 dossiers pour des relations sexuelles hors mariage. 12 000 affaires pénales, juste pour contrôler la vie intime des gens.
Il faut vraiment réaliser ce que cela implique d'un point de vue purement institutionnel et logistique.
Ça doit être une usine à gaz.
C'est énorme. Traiter 12 000 dossiers pour des affaires de mœurs, ça mobilise des ressources policières considérables pour les enquêtes et les interpellations.
Ça mobilise des magistrats pour l'instruction.
Du temps de tribunal précieux, de la paperasse administrative sans fin. C'est toute une machinerie judiciaire énorme qui est dévolue au contrôle strict de l'intimité en application du code pénal actuel.
Et le paradoxe est total, quoi.
Absolument. D'un côté, l'État cherche par tous les moyens l'agilité, la digitalisation, la dérégulation dans sa sphère économique avec ses fameuses sociétés régionales et son IA. Mais de l'autre, il maintient une structure de contrôle extrêmement lourde, très codifiée et profondément traditionnelle dans la sphère privée.
C'est fou. Vous savez, en vous écoutant expliquer ce paradoxe, je me rends compte d'un truc.
Je vous écoute.
Tout ce pays, tel qu'il est décrit dans ce magazine, il ressemble exactement à cette tour Mohamed VI dont on vient de parler. J'ai une sorte d'illumination là.
Ah dis, développer ça m'intéresse.
Tout le récit de cette transition, de ce grand écart, il est contenu dans l'architecture de ce bâtiment. On a cette structure de verre hyper moderne, propulsée par l'IA et l'agilité économique.
Qui s'élance le plus haut possible vers le standard mondialisé.
Voilà, c'est la vitrine. Mais pour que ce gratte-ciel de 55 étages ne s'effondre pas au moindre coup de vent social, ils ont dû enfoncer des fondations antisismiques à 60 mètres de profondeur dans la roche.
Je vois très bien où vous voulez en venir.
Ces fondations souterraines, elles sont invisibles de l'extérieur, mais elles sont indispensables pour maintenir l'édifice debout. ce sont les forces traditionnelles du pays.
C'est très juste.
Ce sont ces 12 000 dossiers pénalisés pour les mœurs. C'est le filet de sécurité familiale qui, dans l'ombre, compense les défaillances de l'État-providence. Ce sont les notables locaux qui tiennent les régions d'une main de fer malgré les chèques distribués aux jeunes. On ne peut littéralement pas avoir cette hauteur moderne sans cet ancrage ultra-rigide dans le passé.
C'est l'image parfaite pour synthétiser les dynamiques à l'œuvre. Vraiment. Le Maroc de 2026, tel qu'il est décrypté dans ces pages, ce n'est pas un pays qui abandonne simplement son passé pour courir joyeusement vers le futur.
Non, c'est plus complexe.
C'est un pays qui tente, au quotidien, de gérer la tension extrême entre les deux. Nous avons vu comment la famille nucléaire s'isole, forçant l'État à intervenir financièrement avec des moyens budgétaires qu'il peine à équilibrer.
En laissant des retraités sur la touche, malheureusement.
Exactement. Nous avons vu comment la crise de confiance oblige le système à parier financièrement sur une jeunesse politique, tout en espérant secrètement qu'elle survive au vieux réseau clientéliste.
Et nous venons de voir comment les ambitions d'un commerce piloté par algorithmes se heurtent au mur de la géopolitique dans le détroit d'Ormuz et aux rigidités du code pénal local.
L'amortisseur harmonique dont nous parlions pour la tour, c'est finalement la société marocaine elle-même qui joue ce rôle tous les jours, pour éviter la rupture structurelle.
Cryptage véritablement intense. Voir comment de simples données familiales ou un décret de financement électoral se connectent pour révéler l'architecture d'une nation entière. C'est ce qui rend l'analyse de ces sources si précieuse en fait.
C'est tout l'intérêt de regarder au-delà des gros titres.
C'est clair. Et pour clore cette réflexion, je voudrais laisser une pensée à quiconque a suivi ce cheminement avec nous aujourd'hui.
Allez-y.
Nous avons vu que la famille physique se resserre à l'extrême, perdant petit à petit son rôle de tribu protectrice, et en parallèle, l'État tente de numériser l'économie et de créer artificiellement de nouvelles communautés politiques par des financements publics.
Mmh.
Si nos liens de sang s'étiolent en ville et que nos institutions se numérisent, à quoi ressemblera la véritable communauté de demain ?
C'est une excellente question.
Sera-t-elle physique, cimentée uniquement par des intérêts de voisinage ou de classe ? Sera-t-elle une création purement virtuelle, dictée par des algorithmes d'IA ? Ou devra-t-on finalement réinventer une forme de tribu entièrement nouvelle ?
C'est une réflexion qui mérite vraiment d'être creusée.
Gardez cet œil critique sur le monde. Ne vous arrêtez jamais aux chiffres de surface. Et à très bientôt pour continuer à questionner les grandes transitions qui nous entourent.